Action. Je ne suis pas ce que je pense être. Je n'étais pas celui que je pensais être. Quand les choses ont commencé à se disloquer, quand j'ai commencé à me disloquer à cause de Nell qui répétait des histoires qu'elle n'aurait pas dû, j'ai maintenu l'unité de mon monde en répétant « Les choses sont comme elles sont, comme elles ont toujours été, et elles ne peuvent pas être différentes. » J'étais le fils d'une mère suicidée et d'un honnête homme. Et en tant que fils d'une mère suicidée et d'un honnête homme, j'étais devenu inspecteur de police. J'avais épousé une femme respectable et responsable, avec qui je vivais une vie respectable et responsable. C'était simple et c'était clair. Il y avait des doutes, bien sûr. Mon père m'a dit qu'après la mort de ma mère, je n'ai pas parlé pendant 3 jours. Mais j'avais un souvenir, ce que je pensais être un souvenir, de moi en train de parler à la gentille et douce Janie Sage. Elle m'avait ramené chez elle ce soir-là, non? Et elle m'avait fait des tartines. Ne lui avais-je pas dit que nous étions allés tous ensemble à la rivière en voiture? Tous ensemble, elle m'avait demandé. Tous les trois? Et à ce moment-là, j'avais pensé qu'il valait mieux que je me taise, parce que je ne voulais pas dire de bêtises. Je croyais me souvenir que nous étions tous les trois dans la voiture, mais mon père m'a assuré que c'était un cauchemar. Dans le cauchemar, ce n'était pas l'orage qui me réveillait, mais les cris de mon père. Et les cris de ma mère aussi. Il se disait des choses affreuses. Elle, ratée, brute. Lui, salope, pute, mauvaise mère. J'ai entendu un bruit sec, une claque, puis d'autres bruits. Ensuite, plus rien. Juste la pluie, l'orage. Et après, une chaise raclant le sol et la porte de derrière qui s'ouvrait en grinçant. Dans le cauchemar, je descendais l'escalier tout doucement et je m'arrêtais devant la cuisine en retenant ma respiration. J'entendais à nouveau la voix de mon père, plus grave, comme un grognement. Et autre chose, un chien qui gémissait. Sauf que nous n'avions pas de chien. Dans le cauchemar, je me demandais si mes parents se disputaient parce que ma mère avait ramené un chien errant à la maison. Ça aurait été tout à fait son genre. Dans le cauchemar, quand je me rendais compte que j'étais seul à la maison, je sortais en courant et mes parents étaient là, tous les deux. Ils montaient dans la voiture, ils partaient, ils m'abandonnaient. Je paniquais, je courais jusqu'à la voiture et grimpais sur la banquette arrière. Mon père essayait de me faire sortir en criant et en jurant, mais je m'agrippais à la poignée de la portière, je donnais des coups de pied et je lui mordais même la main. Dans le cauchemar, nous étions trois dans la voiture. Mon père qui conduisait, moi à l'arrière et ma mère sur le siège passager. Mais elle n'était pas assise correctement, elle était appuyée contre la vitre. À chaque virage un peu serré, elle bougeait. Et sa tête tournait vers la droite, de sorte que je pouvais la voir. Je pouvais voir le sang sur son front et sur sa joue. Je pouvais voir qu'elle essayait de parler, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Ses mots étaient étranges, comme si elle parlait dans une langue que je ne connaissais pas. Son visage aussi était étrange, déformé, sa bouche tordue, et ses yeux devenaient parfois tout blancs. Sa langue lui sortait de la bouche, rose, avec de la salive qui lui coulait du bord de la bouche, un peu comme un chien. Dans le cauchemar, elle essayait de m'attraper et me touchait la main. J'étais terrifié et je me recroquevillais au fond de mon siège, contre la portière, tâchant de m'éloigner le plus possible d'elle. Mon père m'a dit « Ta mère qui essayait de t'attraper, c'était un cauchemar, Sean. Ce n'est pas la réalité. » C'est comme la fois où tu as dit que tu te souvenais d'avoir mangé des harengs à Craster avec ta mère et moi alors que tu n'avais que 3 mois. Tu as dit que tu te rappelais du fumoir, mais c'est seulement parce que tu l'avais vu en photo. Là, c'est la même chose. C'était logique. Ça ne collait pas vraiment, mais au moins, c'était logique. À 12 ans, je me suis rappelé autre chose. Je me suis rappelé l'orage, moi courant sous la pluie, sauf que cette fois, mon père ne montait pas dans la voiture. Il mettait ma mère dedans. Il l'aidait à s'installer sur le siège passager. C'était une image très nette, et je n'avais pas l'impression que ça faisait partie du cauchemar. La qualité du souvenir était différente. J'avais peur, mais ce n'était pas la même peur que quand ma mère avait essayé de m'attraper. C'était moins viscéral. Ce nouveau souvenir m'a beaucoup perturbé. J'en ai parlé à mon père. Il m'a déboîté l'épaule en me balançant contre le mur, mais c'est surtout ce qui s'est passé après qui m'est resté. Il m'a dit qu'il fallait qu'il me donne une leçon. Alors il a pris un grand couteau de cuisine et il m'a coupé à hauteur du poignet. C'était un avertissement. « Pour que tu te souviennes, » il a dit. « Pour que tu n'oublies jamais. Si tu t'avises d'oublier, la prochaine fois ce sera différent. Je couperai dans l'autre sens, comme ça. » Il a placé la pointe de la lame sur mon poignet droit, à la base de la main, et il a remonté le long de mon avant-bras, jusqu'au coude. « Je ne veux plus jamais parler de ça, Sean. Tu le sais. On en a déjà largement assez discuté comme ça. On ne parle pas de ta mère. Ce qu'elle a fait était honteux. » Il m'a parlé du septième cercle de l'enfer, où les suicidés étaient transformés en buissons d'épines et mangés par les harpies. Je lui ai demandé ce qu'était une harpie, et il m'a répondu que ma mère en était une. C'était déroutant. Est-ce qu'elle était le buisson d'épines ou la harpie? J'ai pensé au cauchemar, à elle dans la voiture essayant de m'attraper, à sa bouche ouverte et à la salive sanglante qui lui coulait des lèvres. Je ne voulais pas qu'elle me mange. Quand mon poignet a guéri, la cicatrice s'est restée très sensible, et j'y ai trouvé une utilité. Dès que je sentais mon esprit partir à la dérive, je la touchais, et la plupart du temps, ça suffisait à me ramener à la réalité. Néanmoins, il existait toujours une faille, là, en moi, entre, d'une part, ma compréhension des événements, du rôle que j'avais joué, et du rôle que mon père avait joué, et d'autre part, l'étrange sentiment fugace que quelque chose ne collait pas. Comme le fait qu'il n'y avait pas de dinosaures dans la Bible. D'un côté, ça n'avait pas de sens, et de l'autre, je savais que c'était comme ça. C'était comme ça parce qu'on m'avait dit que ces choses étaient vraies. Adam et Ève, mais également les brontosaures. Au fil des années, la faille s'était faite plus ou moins présente, plus ou moins menaçante. Mais c'est Nell qui a fini par déclencher le séisme. Pas au début. Au début, c'était d'elle qu'il était question, de nous ensemble. Malgré sa déception, elle avait accepté l'histoire que je lui avais racontée, l'histoire que je savais être la vérité. Mais après la mort de Cathy, Nell avait changé. Elle s'était mise à discuter de plus en plus avec Nikki Sage, et elle ne croyait plus à ma version de l'histoire. Il faut dire que celle de Nikki correspondait bien mieux à la vision que se faisait Nell du bassin au noyer, cet endroit qu'elle avait imaginé, un lieu à la gloire des femmes persécutées, des étrangères et des marginales tombées sous le coup d'un système patriarcal dont mon père était l'incarnation. Elle m'a dit qu'elle pensait que mon père avait tué ma mère, et la faille s'est élargie. Il y a eu quelques secousses, et puis, les secousses se faisant plus violentes, des images étranges me sont revenues, d'abord sous la forme de cauchemars, puis sous la forme de souvenirs. « Elle te pervertira !» m'avait prévenu mon père quand il avait découvert pour Nell et moi. Elle avait même fait plus que ça. Elle m'avait entièrement démantelé. Si je l'écoutais, si je croyais à sa version de l'histoire, je n'étais plus le fils malheureux d'une mère suicidée et d'un père de famille respectable. J'étais le fils d'un monstre. Plus que ça, pire que ça. J'étais le petit garçon qui avait regardé sa mère mourir et qui n'avait rien dit. J'étais le petit garçon, l'adolescent, l'homme qui avait protégé son meurtrier, qui avait vécu avec lui, qui l'avait aimé. Il m'était difficile d'être cet homme. La nuit où Nell est morte, on s'était retrouvés au cottage comme avant. Et je me suis abandonné. Elle voulait tellement que j'atteigne la vérité. Elle me répétait que ça me libérerait de moi-même, que ça me libérerait d'une vie que je ne voulais pas. Mais elle pensait aussi à elle, à ce qu'elle avait découvert, et à ce que ça signifiait pour elle, pour son travail, pour sa vie, pour son bassin. C'était d'ailleurs ça le plus important. Le fait que son bassin ne soit plus un lieu où on se suicide, mais un lieu où on se débarrassait des femmes à problème. On est rentré au village à pied. Ce n'était pas la première fois. Depuis que mon père nous avait surpris au cottage, je ne laissais plus jamais la voiture devant. Je la garais systématiquement au village. Nell avait la tête qui tournait à cause de l'alcool, du sexe, de sa nouvelle lubie. « Il faut que tu te souviennes », elle m'a dit. « Il faut que tu y ailles, que tu regardes et que tu te souviennes, Sean. » Exactement comme ça s'est passé, maintenant, cette nuit. « Il pleuvait », je lui ai répondu. « Le jour où elle est morte, il pleuvait. Ce n'était pas une nuit dégagée comme ce soir. On devrait peut-être attendre qu'il pleuve. » Elle n'a pas voulu attendre. Debout au sommet de la falaise, on regardait en bas. « Ce n'est pas là que je me trouvais, Nell, » je lui ai dit. Je n'étais pas là, mais dans les arbres, en contrebas. Je ne pouvais rien voir. Elle était au bord de la falaise. Elle me tournait le dos. « Est-ce qu'elle a crié ?» Elle m'a demandé. « Quand elle est tombée, est-ce que tu as entendu quelque chose ?» J'ai fermé les yeux et je l'ai vue dans la voiture qui essayait de m'attraper, tandis que je cherchais à lui échapper. Je me suis recroquevillé, mais elle n'arrêtait pas de revenir à l'assaut et j'ai voulu la repousser. Et mes mains dans le creux du dos de Nell, je l'ai repoussée.